Nous avons parlé rapidement des obstacles qui s'interposent devant la vie intérieure. La vie intérieure qui est une vie de l'esprit de l'homme avec un petit t, animé par l'esprit de Dieu avec un grand T. Il y a des obstacles et nous sommes obligés de les considérer, ou considérer certains, d'un peu plus près. Le premier grand obstacle qu'il y a devant la vie intérieure, le voici. Ce sont les attachements, tous les attachements. Les attachements aux choses de la terre. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, nous dit l'apôtre Paul dans les Romains. Ce sont donc les attachements aux choses de la terre, d'une manière générale, aux biens, aux affaires de la terre, à tout ce que la terre a de mouvement, d'action, n'est-ce pas, ou de possession. Donc l'attachement aux choses de la terre, l'attachement aux préoccupations terrestres, et le Seigneur a appelé ça d'un mot, il leur a appliqué une expression que nous allons tout de suite voir, n'est-ce pas, les soucis du siècle. Les soucis du siècle, c'est-à-dire nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, le passage où cela se trouve. Les soucis du siècle. En général, cet obstacle se résume pratiquement en ceci. Et je parle des chrétiens, je ne parle pas des inconvertis, n'est-ce pas? Ah, moi, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. On dit, par exemple, vous devriez faire ceci, ou la prédication dit, n'est-ce pas, donne des conseils, etc. Oh, moi, oui, moi, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ou alors, n'est-ce pas, je suis tellement pris, tellement pris. Il est certain que le diable nous aide beaucoup à occuper notre temps. J'assure que il a des ressources sur ce plan-là extraordinaires, n'est-ce pas? Au besoin, il fera fructifier des affaires, des toutes sortes de choses pour bien nous tenir là, n'est-ce pas? C'est l'envahissement, bien sûr, d'une foule d'occupations qui sont là, qui nous pressent, qui préoccupent notre esprit. Et cet envahissement des tâches, des occupations, nous rend indisponibles, sans souvent que nous nous en rendions un juste compte, cela nous rend indisponibles. Il est certain que plus nous allons vers le moment crucial, le moment, n'est-ce pas, de la fin des temps, comme m'a dit un pasteur, la fin des temps, il est évident que nous sommes dans une vie qui est exigeante de temps, et pourtant nous n'avons qu'une mesure non extensible de temps, chers amis. Dieu nous a ménagé une mesure de temps, mais on ne peut pas tirer dessus, n'est-ce pas? Je crois même qu'actuellement, les jours se raccourcissent. Vous me direz, c'est une perspective, c'est quelque chose, n'est-ce pas, une impression que l'on a parce que on est affairé de tous côtés. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement cela. Je me demande s'il n'y a pas eu une accélération générale dans les mouvements relatifs de l'univers. Mais enfin, ça c'est une autre question. Et pourtant, le Seigneur nous a enseigné la sagesse dans l'utilisation du temps. Voyons d'abord le sermon sur la montagne, bien sûr, Matthieu 6, à partir de 31, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faudrait pas mal comprendre les paroles du Seigneur et penser que c'est un encouragement à l'abandon, à s'abandonner, à l'indolence, n'est-ce pas, à ne rien faire, à la paresse. Non pas. Mais il s'agit là d'une priorité des priorités. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous avez une priorité à accorder à cela, à chercher le royaume. Et chercher le royaume, c'est d'abord chercher le roi. Voilà. Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Alors, cherchez cela, ça c'est la priorité. Tout le reste, quoi que nous en pensions, quoi que nous en disions, passe au second plan et entre dans une limite qu'il faut savoir avec sagesse observer. Il y a un équilibre à respecter entre les obligations terrestres. Nous ne nions pas qu'il y ait des obligations terrestres. Peut-être pas pour tellement pour des retraités comme moi, n'est-ce pas? Des retraités. Alors là, ce serait le comble si ceux-là disaient « Je n'ai pas le temps, je suis trop pris. » Il y a un équilibre à respecter entre les obligations de la terre pour ceux qui sont encore dans la partie active de leur existence, qui ont une famille, n'est-ce pas, et des enfants dont ils ont à prendre soin, bien sûr. S'ils ne prenaient pas soin, l'Écriture nous dit, n'est-ce pas, qu'ils seraient comme des païens. Il faut qu'ils prennent soin de leur famille, bien sûr. Alors, il y a des obligations terrestres, mais il y a un équilibre entre ces obligations et les relations de notre âme avec Dieu. Quand je dis âme et esprit, n'est-ce pas? Il y a un équilibre venant de la juste notion des intérêts authentiques. L'éternité, c'est là le grand intérêt. L'éternité vaut plus que le temps présent, que le siècle présent, que les choses de la terre. L'éternité vaut plus. Il faut que nous nous donnions cette optique-là. Nous ne l'avons pas naturellement. Voyez, par exemple, toutes les personnes que nous convions à l'Évangile, et même qui sont intéressées souvent par l'Évangile, elles vous diront facilement, je peux pas, j'ai pas le temps. Ah, je voudrais bien, oui, ça me plaît, ça m'intéresse. Mais j'ai pas le temps. Dès qu'elles auront le temps de mourir, n'est-ce pas? Et elles auront le temps peut-être un jour d'être frappées tout à coup par une maladie, un infarctus, par exemple, du myocarde, n'est-ce pas? Alors là, on va les mener immédiatement à la clinique, n'est-ce pas, et les immobiliser. Il faudra bien que, à ce moment-là, elles trouvent le temps au milieu de leurs occupations. Mais enfin, n'est-ce pas, c'est quelque chose que l'homme pense ou dit facilement cela. Alors, il faut que nous remettions les choses en place. L'éternité vaut plus que le temps. L'âme, nous a montré le Seigneur, vaut plus que le corps. Et tout ce qui s'y rapporte, bien sûr. Alors, les biens d'en haut, les trésors qui sont dans les cieux, le Seigneur nous a dit que ça valait bien plus que les trésors d'en bas, et qui sont mangés par la teigne, la rouille et je ne sais quoi, n'est-ce pas, qui se détruisent, quand ce ne serait que par la dévaluation de la monnaie, n'est-ce pas? Eh bien, par conséquent, il y a là une priorité à donner. La vie de l'esprit vaut plus que celle du corps. Car si le corps éteint la vie de l'esprit, les choses du corps éteignent la vie de l'esprit, eh bien le corps, lui-même, il ne pourra pas ressusciter encore nouveau, n'est-ce pas? Il sera condamné à ressusciter avec les impies pour le jugement. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur nous dit en somme ceci, toutes ces affaires dont vous êtes si préoccupés, ça a trait, bien sûr, à la vie courante, à l'existence, c'est-à-dire que il a cité le vêtement, il a cité la nourriture, il aurait pu citer le logement, mais enfin, il a pris deux choses caractéristiques, n'est-ce pas? Bien, alors, toutes ces affaires dont vous êtes préoccupés se résoudront par un bienfait de Dieu. Si vous êtes gens de foi, elles se résoudront par un bienfait de Dieu. Dieu sait que vous en avez besoin. Il revêt le lys des champs, il donne à manger aux oiseaux du ciel. Et si vous, au lieu de vouloir les résoudre uniquement par le seul travail de l'homme, vous consacrez au royaume de Dieu tout votre cœur, n'est-ce pas, en priorité, eh bien Dieu vous accordera, vous ne manquerez de rien. En somme, nous allons, si vous voulez, simplifier ce que Dieu nous dit. Voici ce qu'il nous dit. Pour la question matérielle, confiance en moi. Pour la question spirituelle, fidélité. Voilà. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est très simple, n'est-ce pas? Voilà son impératif. Pour la question matérielle, ayez confiance en moi. Et ce sera d'ailleurs une excellente chose, un excellent exercice pour votre foi, pour que votre foi puisse grandir, n'est-ce pas? Grandir dans la mise en pratique. Eh bien, pour la question matérielle, je m'en charge, dit le Seigneur. Bien sûr, vous accomplirez le travail qui est normal dans une mesure, à chaque jour suffit sa peine. Il y aura une mesure sage. Je ne vous dispense pas du travail, nous dit le Seigneur. C'est la loi générale depuis la chute de l'homme. Mais, attention, à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, vous êtes entré dans une alliance particulière. Dans une alliance, n'est-ce pas, où, je vous dis, pour la question matérielle, vous ne manquerez de rien si vous avez la foi, confiance en moi. Faites votre part, n'est-ce pas, dans la société où vous vivez, n'est-ce pas, faites votre part. Mais attention, pour la question spirituelle, hein, qui passe la première, fidélité. N'imposez pas de sacrifice à la question spirituelle, elle est principale, primordiale, et c'est à elle qu'il faut accorder la priorité. Je vous ai parlé des soucis du siècle, eh bien les soucis du siècle, c'est dans une parabole, Matthieu 13, 22, l'explication que le Seigneur donne de la parabole de la semence et des différents terrains. Alors, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. N'est-ce pas? Le Seigneur laisse entendre que dans cette parabole, n'est-ce pas, la semence a bien produit une tige. N'est-ce pas? Il y a une vie chrétienne qui s'est amorcée, et puis voilà, cette vie chrétienne, n'est-ce pas? À côté, il y a les ronces, les épines qui poussent, n'est-ce pas? Et qui, naturellement, étouffent cette petite plante et l'empêchent de grandir et de porter son fruit. Et voyez comment la chose est comprise, doit être comprise. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, il l'a entendue, il a reçu dans son cœur, la parole a germé, a donné une plante, mais voilà, il n'est pas débarrassé des soucis du siècle, de la séduction des richesses, et la parole se trouve étouffée, la vie chrétienne est bloquée. Elle est bloquée. N'est-ce pas? Elle est bloquée. Et cela n'est pas sans danger. Nous allons passer maintenant à un autre obstacle, je ne veux pas m'arrêter trop longtemps sur chacun, cet obstacle, nous allons l'appeler tout simplement avec Paul, dans Romains 12, 16, Romains 12, verset 16, nous allons l'appeler la paresse. C'est pas 16, 12, 11, pardon, 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bon, nous faisons bloc de ces deux versets, n'est-ce pas? Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. La paresse dont il s'agit ici est une paresse qui peut apparaître chez l'homme le plus actif. Oui, c'est l'homme le plus actif. Certaines personnes seront capables de fournir un travail énorme, excessif même, n'est-ce pas ? D'être toujours à la tâche, de ne jamais s'arrêter. Et de ces personnes-là, on dira, il est courageux, hein ? Oh, il est courageux, ou elle est courageuse, n'est-ce pas ? Elle est toujours au travail. Eh bien, chez une telle personne, il peut y avoir la paresse dont il s'agit ici, la paresse de l'esprit. Et cette paresse de l'esprit, donc, elle ne va pas de pair avec la paresse physique, si vous voulez, n'est-ce pas, ou la paresse d'ordre moral, purement moral. C'est quelque chose qui est particulier. C'est une paresse spirituelle et intellectuelle et spirituelle, disons. Une paresse de l'esprit. Une paresse de l'esprit. Une indolence de l'âme. L'âme se laisse flotter, n'est-ce pas? Une indolence de l'âme. Un engourdissement de la pensée, une nonchalance à laquelle on ne n'oppose pas un certain effort pour la surmonter, une indolence qu'on ne surmonte pas, c'est alors, n'est-ce pas, le perfectionnement spirituel qui va en souffrir, c'est en somme le laisser aller par le non-effort. Il est certain qu'à certains moments, dans certaines circonstances, n'est-ce pas, nous abandonnerions bien le moment de prière. Nous abandonnerions bien aussi la méditation, la lecture et la méditation des Écritures. À certains moments aussi, nous dirions bien, oh bon, on va pas à la réunion ce soir, n'est-ce pas. Voyez, et comme cela, n'est-ce pas, on peut aller très loin. Alors, il est évident, n'est-ce pas, qu'on laisse, on favorise en soi cette paresse de l'esprit, et quand il s'agit de méditer, de réfléchir, quand il s'agit de prier, eh bien, on ne le peut pas, on est tout de suite arrêté par une sorte de fatigue, d'indolence, n'est-ce pas ? On n'a pas, en somme, de persévérance dans la ferveur. Et pourtant, voyez-vous, le Seigneur, bien sûr, nous a montré que cela était un obstacle redoutable. Nous allons lire, par exemple, dans Matthieu 25-26. On ne peut pas lire toute la parabole, n'est-ce pas ? Nous aurons l'occasion d'en parler, des paraboles. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquet et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Là, n'est-ce pas, la parabole porte un enseignement qui est légèrement différent, très différent même, de ce qui nous occupe ici. Mais, n'est-ce pas, vous voyez, tout de même, le Seigneur souligne dans le cas de cet homme qui n'a rien fait, qui n'a pas fait valoir les biens de son maître, hein, il souligne ceci, méchant, hein, méchant, il y avait donc, n'est-ce pas, le mal encore, n'est-ce pas, en lui, et paresseux, il n'a pas voulu se donner la peine, le mal. Nous allons maintenant lire quelques passages dans les Proverbes. Ah, le livre des Proverbes. Nous avons 15-19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Le sentier des hommes droits. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, il est arrêté, il ne peut pas. Il ne peut pas avancer, il a un obstacle. C'est un obstacle. Nous allons maintenant au chapitre 19 et au verset 15. 19 et verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est un peu là-dessus que je me suis fondé tout à l'heure pour vous parler de nonchalance, une nonchalance qu'on ne surmonte pas, pour vous dire que la paresse nous amenait, n'est-ce pas, dans l'indolence, dans l'engourdissement. Je me suis fondé sur les proverbes. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, dans l'engourdissement. Toujours dans le chapitre 19, le verset 24. Ça, c'est très amusant, la façon dont c'est exprimé. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Ça, c'est trop lui demander encore, n'est-ce pas? Il cède à l'attirance du plat, n'est-ce pas, et aux fumées qui s'élèvent du plat, n'est-ce pas, et quoi qu'il a la main dans le plat, il s'endort. Il n'a pas la force de ramener vers lui. Il y a encore un passage, on verra tout à l'heure, qui est très coloré aussi. Au chapitre 20 et au verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Hein, c'est le fait souvent, n'est-ce pas? Oui, des paresseux, ils voudraient récolter. Ils voudraient peut-être être comme leurs frères et leurs sœurs, n'est-ce pas? Les plus fervents, pouvoir prier, pouvoir méditer, pouvoir goûter la même joie qu'eux, n'est-ce pas? La même joie intérieure. Alors, ils viennent pour chercher ça. Ils viennent peut-être pour chercher aussi les dons spirituels qu'ils voudraient bien posséder. Puis, il n'y a rien. Ils n'ont rien, ils sont à vide. Ils sont vides parce que, n'est-ce pas, ils sont paresseux et ils n'ont pas labouré. Ils n'ont pas fait ce qui était en premier pour avoir la récolte. Au chapitre 22 et au verset 13. Ah, le voilà, oui, ce verset qui est très coloré aussi. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Alors il ne bouge pas, il reste chez lui, il sort pas, n'est-ce pas? Il a un bon motif, un bon prétexte, n'est-ce pas? Il a peur du lion. Il se donne des raisons, donc, à lui-même. Le chapitre 24 et le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces s'en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Transporter ça, bien sûr, sur le plan spirituel. Notez que sur le plan moral, sur le plan pratique, c'est vrai. C'est très vrai, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait un peu que notre société, aujourd'hui, manque de bien des choses, n'est-ce pas? Parce que on ne veut plus travailler. Ah, ça, c'est un grand mal. Mais enfin, c'est en dehors de notre question. Nous transposons ça sur le plan spirituel. En somme, voici un observateur, n'est-ce pas, qui est allé faire une excursion dans les champs, il est allé se promener dans les champs, et voici que il est passé près d'une vigne, du champ d'un paresseux. Comment a-t-il su que c'était un paresseux? Eh bien, il a déjà regardé, c'est tout de suite l'impression qu'il a recueillie près de la vigne d'un homme dépourvu de sang. En effet, il y avait entre les pieds de vigne des épines qui croissaient partout. Les vignes, n'est-ce pas, étaient mélangées aux épines. Oh, quel spectacle! C'est un spectacle, on peut dire même irritant, ne trouvez-vous pas? C'est un spectacle irritant. Que de voir ça. Une vigne, comme autre chose, n'est-ce pas? Ça devrait être soigné. C'est plaisant de voir une vigne qui est bien labourée, qui est soignée, qui est taillée, n'est-ce pas? Les vignes croissent partout, les ronces en couvraient la face, n'est-ce pas? Et le mur de pierre était écroulé. C'est l'image, là, n'est-ce pas, d'une vigne. La vigne, c'est une existence, si vous voulez, une vie chrétienne, abandonnée. C'est plein de ronces et d'épines. Si vous cherchez dans l'Écriture ce que signifie ce même symbolisme des épines et des ronces, vous verrez qu'il y a là, hélas, n'est-ce pas, toutes sortes d'habitudes de péché. des habitudes mauvaises de péché qui ont repris vie, n'est-ce pas? Et puis le mur de pierre était écroulé. Qu'est-ce qui était écroulé comme cela autour de la vigne? C'est ce qui garde la vigne, le mur, dans la Bible, n'est-ce pas? C'est bien, ça nous est montré comme étant ce qui va garder la vigne des animaux qui viendraient la brouter. Alors, le mur étant écroulé, la vigne n'est pas gardée, les animaux peuvent la piétiner, c'est la piété qui s'est écroulée. Il n'y a plus dans cette vie de piété. Plus de piété. Alors, j'ai regardé attentivement, j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Et voilà l'instruction que cet observateur a tirée de son observation. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un petit peu croiser les mains pour dormir, n'est-ce pas? Et puis la pauvreté arrive comme un rôdeur. C'est-à-dire, elle arrive sans que on s'en rende compte. On est dans la pauvreté, la disette comme un homme en armes. Et nous avons encore 26-14. Vous voyez que le livre des Proverbes est abondant, n'est-ce pas, en conseils et en avertissements concernant la paresse. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui réponde avec bon sens. Il se croit plus sage. Voilà encore un travers du paresseux, c'est que il va se croire quand même, il ne l'est pas authentiquement, puisque sa vie est abandonnée, sa vie intérieure est en mauvais état. Sa vie intérieure étant en mauvais état, n'est-ce pas, il ne peut pas véritablement avoir avoir de l'intelligence, n'est-ce pas, de la sagesse, il ne peut pas en avoir. Mais il s'imagine, il prétend être plus sage que cet homme, il va tomber donc dans la prétention, ou ce que nous appelons quelquefois l'orgueil spirituel. Et pourtant, Dieu nous invite à avoir de la réflexion. Vous savez que la sagesse, cette sagesse si précieuse, est la science de la réflexion. Je vous lirai d'abord dans les Proverbes, puisque nous y sommes, au chapitre 16 et au verset 20. Chapitre 16, au verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Réfléchir. Sommes conviés à cela. Et nous avons aussi dans les Proverbes 8-12, c'est très important ce verset qui nous parle de la sagesse, de ce qu'elle est. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. La réflexion est liée à une science, une connaissance intérieure qui ne peut pas être là sans la réflexion. Vous savez, il y a dans quelquefois nos milieux des personnes qui ont tort. Ça arrive. Et qui ont tort surtout en ce que elles vous diront quelquefois, « Oh, moi, je compte sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si j'ai besoin de dire quelque chose, de faire quelque chose, de savoir quelque chose, moi, je compte sur le Saint-Esprit. Moi, je veux pas besoin qu'on m'enseigne, j'ai pas besoin, n'est-ce pas, d'écouter les enseignements dans l'Église, les prédications, non, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin non plus de tellement méditer la Bible, je lis comme ça, n'est-ce pas, mais je n'ai pas besoin de méditer, parce que le Saint-Esprit me dit tout. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous voyez, le Seigneur nous dit que la sagesse, n'est-ce pas, est la demeure, a pour demeure le discernement et possède la science de la réflexion. Dans les Proverbes, toujours au chapitre 2 et au verset 11, lisons verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal de l'homme qui tient des discours pervers. » La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, intelligence spirituelle. Chaque chrétien doit donc pouvoir et savoir réfléchir sur la vie de son âme. On ne s'aventure pas, n'est-ce pas, dans une marche avec le Seigneur sans réfléchir sur la vie de son âme, sans réfléchir sur Dieu, et sans réfléchir, bien sûr, sur Christ. L'esprit peut très bien se rouiller. L'esprit peut se scléroser s'il n'est pas entretenu dans l'activité de la pensée. La pensée doit conserver une activité spirituelle. Toute piété qui exclut, par conséquent, la réflexion ou la participation de la pensée devient un automatisme superstitieux. Je regrette, mais c'est cela. Moi, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. J'aime beaucoup les illuminations du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je les demande, n'est-ce pas? Quand je commence une étude le matin, voyez ma prière, n'est-ce pas, pour le Seigneur, ici, ou l'après-midi, si je prépare, n'est-ce pas, c'est de dire, Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Seigneur, donne-moi toi-même la matière de cette étude, n'est-ce pas? Donne-moi toi-même les pensées, que ce soit des pensées. Donne-les-moi, je les attends de toi. Mais je travaille. Le Seigneur ne me dit pas, eh bien, je vais te les donner, tu n'as plus rien à faire. Bah, tu n'as qu'à poser ton crayon, puis te mettre à dormir un peu, puis ça viendra tout seul, n'est-ce pas? Non, je prépare. Et en préparant, n'est-ce pas, le Seigneur me donne les pensées et me guide. Mais il ne m'épargne pas le travail de la réflexion. Car en effet, ce ne serait pas la sagesse de la part de Dieu s'il nous épargnait la réflexion. Notre esprit se rouillerait, ça se rouille. Les facultés intellectuelles, les facultés naturelles, n'est-ce pas, elles se rouillent. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de recyclage. C'est pas seulement parce que il y a des choses nouvelles, un apport nouveau dans toute technologie, mais c'est que aussi, n'est-ce pas, on oublie beaucoup et l'on est obligé de revenir un peu à l'étude pour se rafraîchir l'esprit. De toute manière, n'est-ce pas, c'est bien connu, une personne qui n'a plus d'activité intellectuelle, qui laisse sa pensée aller, qui ne fait pas l'effort de penser, de réfléchir, elle se rouille. Enfin, ça c'est bien connu. L'esprit peut donc se scléroser. Il ne s'agit pas d'acquérir et d'enregistrer une science humaine. Bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Il s'agit d'une science divine dont la source sera double. Il y aura d'abord la révélation de Dieu dans les Écritures. Ça nous est donné, les Écritures. Enfin, c'est une révélation, les Écritures. Et puis, il y aura l'intelligence et la sagesse spirituelle que le Seigneur nous donnera, mais ne donne pas à des paresseux, n'est-ce pas? Regardez dans Colossiens, chapitre 1er et verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Dieu veut donner cela, bien sûr, et ça c'est surnaturel, c'est un apport purement surnaturel, autrement dit un apport de l'Esprit de Dieu à l'esprit de l'homme, mais à une condition, c'est que l'homme reste dans l'activité de la ferveur, dans la piété, la ferveur et l'activité de la pensée. Notre réflexion ne nous appartient d'ailleurs pas. Si elle est soumise à Dieu, et si elle se met au service de la foi, elle nous est concédée par Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui va, mettre en activité notre réflexion, qui va la vivifier, n'est-ce pas, et nous allons avoir une réflexion qui nous permettra d'absorber la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, et en même temps, n'est-ce pas, de nous enrichir et de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu et dans la connaissance de Dieu. Grandir, cela est nécessaire, croître, c'est chose indispensable. Voilà donc ce qui importe à la vie intérieure du chrétien concernant cette activité spirituelle en lui. Il doit y avoir une activité spirituelle en lui. Vous savez, quand le Seigneur parlait à ses disciples, qui pourtant n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, il leur disait, comment êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Ou il leur disait, n'est-ce pas, qu'ils étaient lents à comprendre? Lent à comprendre. Alors le Seigneur leur ouvre l'esprit, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut que l'on comprenne. Comprenez ce que signifie cela. Il y a une pénétration qui ne peut se faire que par un travail de réflexion, mais ce travail de réflexion s'opérant avec la foi, bien entendu, et étant inclus dans la piété de l'ensemble, la piété de quelqu'un, n'est-ce pas? L'ensemble, la piété est un ensemble. Dans la piété, ça comprend la prière, la lecture des saintes écritures, ça comprend la méditation, la contemplation. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir là-dessus, n'est-ce pas, sur la piété. Eh bien, dans la piété, il y a la réflexion. Elle est indispensable. Eh bien, nous arrêtons là ce soir.